Les podcasts d'AFDS.TV. Les suppléments d'Aux Frontières des Séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. La hit série Sophie Sourdiocourt.
Dans ce supplément hit série, Tilmant Villette, bonjour Tilmant.
Bonjour.
Va nous parler d'une série que personnellement j'attends, qui est Dracula avec Jonathan Rhys-Meyer. Et pour en parler avec toi, il y a Héloïse Rouard. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
C'est effectivement une série qui était assez attendue, qui a donc été diffusée à partir du 25 octobre 2013 sur NBC. C'est une série donc de Cole Haddon, créateur jusque-là qu'on n'avait pas vraiment entendu parler puisque c'est sa première série. On revient sur le mythe de Dracula. Mon Dracula, il y a eu énormément de versions cinématographiques, mais bon, à la base, ça vient, comme tout le monde le sait, du livre de Bram Stoker. Pour le coup, ici, on repart dans une histoire qui n'a plus grand-chose à voir, finalement, avec l'histoire de base, puisque on retrouve, en fait, Dracula qui se fait appeler Alexander Grayson, qui est un riche businessman américain qui s'installe, donc, dans le Londres victorien pour faire du commerce, faire prospérer son entreprise, mais qui, en fait, en réalité, cherche à venger la mort de sa bien-aimée, qui a été assassinée par une sorte d'ordre qui regroupe des personnes notables du Londres victorien, qui est un ordre qui veut annihiler les vampires, en fait. Ça s'appelle l'Ordre du Dragon, et pour cela, en fait, il va se mettre en partenariat avec Van Helsing. Alors là, effectivement, je vois déjà vos regards interloqués. Il se met donc en partenariat avec Van Helsing parce que donc Van Helsing, on apprendra ça durant un des flashbacks dans le premier épisode, c'est celui qui est parti en soi ressusciter Dracula. Oui, parce que Van Helsing, il a besoin de Dracula pour se débarrasser également de l'Ordre des Dragons parce que lui aussi, on a massacré sa famille.
Oh.
Eh oui. Alors, ils vont faire un partenariat et en même temps, Dracula va essayer d'obtenir de Van Helsing un sérum pour pouvoir apparaître au jour, donc pouvoir voir le soleil. Parce que ça lui pose quand même pas mal de problèmes, malgré tout, de ne pas pouvoir aller à la lumière du jour alors qu'il est censé être businessman.
Oui, c'est ça, surtout pour gérer sa petite entreprise.
On va retrouver aussi quand même le personnage de Mina, malgré tout, qui est un peu une sorte de réincarnation de la femme de Dracula qui est morte, avec son amie Lucy. Donc là, on reprend le personnage aussi du roman de Bram Stoker. Et l'honneur est sauf, Mina est toujours en couple avec Jonathan, le fameux journaliste. Je ne sais pas trop comment tout ça va évoluer parce que je n'ai vu que les trois premiers épisodes, mais cette redistribution de cartes est un peu déstabilisante dès le départ et surtout on se retrouve encore face au cliché de la société secrète qui doit être démantelée et on voit durant les premiers épisodes qu'à chaque épisode Dracula décide de s'attaquer à l'un de ses membres et le réduire en pièces, soit en détruisant sa réputation, soit en s'en débarrassant purement et simplement.
C'est un peu comme s'il avait une mission quoi, de réduire en sens de cette société secrète. Et en même temps, est-ce que Van Helsing, à la base, il voulait tuer Dracula ou...
À la base, Van Helsing, il n'est pas fan de Dracula quand même, bien sûr, mais ça n'empêche que il préfère encore faire équipe avec Dracula plutôt que ne rien faire face à cet ordre du dragon. Il y a aussi des éléments un peu bizarres dans ces épisodes, c'est que tout est très très joli, les décors, la reconstitution du Londres victorien, les costumes, c'est vraiment foisonnant, c'est magnifique, clairement. Après, on a à chaque épisode une sorte de petit intermède obligatoire, semble-t-il, de 5 à 10 minutes de baston, filmé parfois un peu au ralenti style Matrix, avec des armes qui sortent en faisant chouing, et des prises de kung-fu et de karaté, des bonds de toi en toi, un peu impressionnant. Et là, on se retrouve face aux sortes de dernières ressuscées style Abraham Lincoln, chasseur de vampires, Hansel et Gretel, chasseur de sorcières. Mais c'est un peu le même style, et ça tombe comme un cheveu sur la soupe, parce que le reste étant tellement sérieux et quand même relativement classe, là, on se retrouve face à une sorte de combat un peu cheapos. C'est vraiment dommage.
Et en même temps, tu crois pas que c'est ce qu'attendent en général les fans de séries vampiriques? Parce que dans toutes les séries de vampires, que ce soit Vampire Diaries, Angel, Buffy, on a des combats kung-fu, comme si les vampires et les chasseurs ne savent pas se battre autrement qu'en faisant des prises de kung-fu et en volant dans les airs.
À la différence, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de cassure très nette entre cette délicatesse de la reconstitution et puis ces arrivées de combat avec des manteaux de cuir à la Matrix, comme ça. Mais enfin, il faut le voir pour le croire quand même. Je suis resté assez interloqué, j'étais vraiment dedans au début, et puis à chaque fois que ces scènes arrivent, je sors là, je comprends pas, je regarde ça en me disant bon, c'est certainement fait pour draguer peut-être l'adolescent aussi, l'amener à regarder la série, mais c'est franchement pour moi une catastrophe par rapport à la qualité ambiante du reste.
Je me disais qu'une des explications serait peut-être, je sais pas moi, la créativité foisonnante de Daniel Knopf, qui est en fait aussi le créateur de la série Carnivale.
Oui, c'est vrai que ça part aussi un petit peu ici dans tous les sens. Je pense qu'on a un départ qui est classique, et puis au fur et à mesure des épisodes, en tout cas sur les trois premiers épisodes, il y a énormément de pistes qui sont lancées et on se demande un peu à certaines à quoi elles servent. On a des voyants aussi extralucides, enfin un couple de jumeaux voyants extralucides, ce genre de choses, mais c'est vraiment très étrange. Après, d'un point de vue esthétique, à chaque fois c'est magnifique. Même dans les scènes les plus cheap, c'est magnifique.
Un peu comme à Carnivale en fait, hein. On est vraiment pas dans le même genre d'histoire, mais on a aussi ces éléments qui font que esthétiquement c'est très joli. Progressivement, d'un très bon départ, bah, on se perd et ça en devient vraiment très compliqué, voire incompréhensible pour le téléspectateur.
En parlant aussi de jolies choses, ben, on peut parler du casting, puisque le Dracula est interprété par Jonathan Rhys-Meyer. Le Jonathan Rhys-Meyer, donc le roi des Tudors. Comme dans les Tudors, il était très souvent à moitié nu, bah, ici, il est très souvent à moitié nu au lit aussi. Il faut savoir quand même que Dracula, c'est une série qui n'hésite pas à montrer un peu de sein par-ci par-là, à montrer des scènes charnelles assez explicites malgré tout pour un network. Et puis bon, ben, messieurs, il y a également la très jolie Jessica De Gow qu'on a pu voir dans Arrow Underbelly, qui joue le rôle de Mina, et malheureusement pour le coup, elle est un peu fadasse, hein. Moi je vais vous réorienter plutôt vers Victoria Smurfit si vous préférez les blondes à forte poitrine, ou alors la très jolie aussi Katie McGraw qui joue Lucy. Lucy qui était à la base un personnage un peu déduré et qui ici, eh bien, n'est pas en reste non plus.
On dit messieurs, mais sachez quand même pour la petite histoire que, en tout cas moi j'ai dans mon entourage certains qui verraient même leur Kitty pour Jonathan Rhys-Meyer. Donc chacun
on va
prend son plaisir où
on
il veut.
On va taire les noms. Hein. Le premier épisode de Dracula n'a pas démérité, mais n'a pas non plus fait un carton fantastique, puisqu'il y a eu 5,26 millions de téléspectateurs. Catastrophe sur le deuxième, puisqu'on tombe à 3,39 millions de téléspectateurs. Ça sent assez mauvais, je dirais, pour la reconduction au bout des 10 épisodes prévus. Normalement, les 10 épisodes seront effectivement diffusés. C'est pour ça que de plus en plus de personnes avancent que Dracula sera probablement plutôt considéré comme une mini-série en 10 épisodes. Je pense qu'il vaut mieux directement clôturer la saison sur une fin probable, parce que l'audience ne suivant pas, je doute que l'on puisse en tout cas étaler l'histoire sur plusieurs saisons. Et je suis même pas sûr en fait qu'il y ait un intérêt à faire durer cette histoire sur plusieurs saisons non plus.
Une série finalement très esthétisante, donc agréable à regarder. Par contre, au niveau du scénario et des effets, c'est quand même assez catastrophique. Ben, on va attendre quand même la fin de la série pour se prononcer définitivement. Et on vous retrouve bientôt.
Les podcasts d'AFDS.TV aux frontières des séries.